Messire Jean de Hainaut n'eut pas le lendemain à faire montre de sa vaillance, et sa belle préparation d'âme resta vaine. Quand il se présenta au matin, toute bannière flottante et homme lassé, devant Bristol, la ville était déjà décidée à se rendre, et on aurait pu la prendre avec un bâton. Les notables s'empressèrent d'envoyer les parlementaires, qui ne s'inquiétèrent que de savoir où les chevaliers voulaient loger, protestant de leur attachement à la reine, et s'offrant à livrer sur le champ leur seigneur, Hugh de Spencer le Vieux, seul coupable de leur empêchement à témoigner plus tôt de leurs bonnes intentions. Les portes de la ville aussitôt ouvertes, les chevaliers prirent quartier dans les beaux hôtels de Bristol. Despenser le Vieux fut appréhendé dans son château et gardé par 4 chevaliers, tandis que la reine, le prince héritier et les principaux barons s'installaient dans les appartements. La reine retrouva là ses 3 autres enfants qu'Édouard II, en fuyant, avait laissés à la garde du Despenser. Isabelle s'émerveillait qu'ils eussent en 20 mois si fort grandi, et ne se lassait pas de les contempler et de les embrasser. Soudain, elle regarda Mortimer, comme si cet excès de joie la mettait en faute envers lui, et murmura « Je voudrais, ami, que Dieu m'eût fait la grâce qu'il fusse né de vous. » À l'instigation du comte de Lancastre, un conseil fut immédiatement réuni autour de la reine, et qui groupait les évêques de Hereford, Norwich, Lincoln, Ely et Winchester, l'archevêque de Dublin, les comtes de Norfolk et de Kent, le baron Roger Mortimer de Wigmore, Sir Thomas Wake, Sir William Lazouge d'Ashley, Robert de Montal, Robert de Merle, Robert de Watteville et le sire Henri de Beaumont. Ce conseil, tirant argument juridique de ce que le roi Édouard se trouvait hors des frontières, qu'il fût en Galles ou en Irlande, ne faisait pas différence, décida de proclamer le jeune prince Édouard gardien et mainteneur du royaume en l'absence du souverain. Les principales fonctions administratives furent aussitôt redistribuées et Adam Holton, qui était la tête pensante de la révolte, reçut la charge de Lord Trésorier. Il était grand temps, en vérité, de pourvoir à la réorganisation de l'autorité centrale. C'était merveille même que pendant tout un mois, le roi en fuite, ses ministres dispersés et l'Angleterre livrée à la chevauchée de la reine et des hennuyés, les douanes eussent continué de fonctionner normalement, les receveurs de percevoir les taxes vaille que vaille, le guet de faire surveillance dans les villes, et que, somme toute, la vie publique eût suivi son cours normal par une sorte d'habitude du corps social. Donc le gardien du royaume, le dépositaire provisoire de la souveraineté, avait 15 ans moins un mois. Les ordonnances qu'il allait promulguer seraient scellées de son sceau privé, puisque les sceaux de l'État avaient été emportés par le roi et le chancelier Baldoc. Le premier acte de gouvernement du jeune prince fut de présider le même jour au procès de Hugh de Spencer le Vieux. L'accusation fut soutenue par Sir Thomas Woke, rude chevalier déjà âgé qui était maréchal de Lost et qui présenta le de Spencer, comte de Winchester, comme responsable de l'exécution de Thomas de Lancastre, responsable du décès à la tour de Londres de Roger Mortimer l'aîné, car le vieux lord de Chirk n'avait pu voir le retour triomphal de son neveu et s'était éteint dans son cachot quelques semaines plus tôt, responsable aussi de l'emprisonnement, du bannissement ou de la mort de nombreux autres seigneurs, de la spoliation des biens de la reine et du comte de Kent, de la mauvaise gestion des affaires du royaume, des défaites d'Écosse et d'Aquitaine, toutes choses survenues par ses exhortations et funestes conseils. Les mêmes griefs seraient repris désormais contre tous les conseillers du roi Édouard. Ridé, voûté, la voix faible, Hugh le Vieux, qui avait feint tant d'années un tremblant effacement devant les désirs du roi, montra l'énergie dont il était capable. Il n'avait plus rien à perdre, il se défendit pied à pied. Les guerres perdues, elles l'avaient été par la lâcheté des barons. Les exécutions capitales, les emprisonnements, ils avaient été décrétés contre des traîtres et des rebelles à la loyale autorité sans le respect de laquelle les royaumes s'effondrent. Les séquestres de fiefs et de revenus n'avaient été décidés que pour empêcher les ennemis de la couronne de se fournir en hommes et en fonds. Et si l'on venait à lui reprocher quelques pillages et spoliations, comptait-on pour rien les 23 manoirs qui étaient ses propriétés ou celles de son fils, et que Mortimer, Lancastre, Maltravers, Berkeley, tous présents ici, avaient fait piller et brûler l'an 1321 avant d'être défaits, les uns à Shrewsbury, les autres à Boroughbridge. Il ne s'était que remboursé des dommages par lui subis, et qu'il évaluait à 40 000 livres, sans pouvoir estimer les violences et sévices de tous ordres commis sur ces gens. Il termina par ces mots adressés à la reine. « Ah, madame, Dieu nous doit bon jugement, et si nous ne pouvons l'avoir en ce siècle, il nous le doit dans l'autre monde. » Le jeune prince Édouard avait relevé ses longs cils et écouté avec attention. Hugh le Despenser le Vieux fut condamné à être traîné, décapité et pendu, ce qui lui fit dire avec quelque mépris « Je vois bien, mes lords, que décapiter et pendre sont pour vous deux choses diverses, mais pour moi, cela ne fait qu'une seule mort. » Son attitude, bien surprenante pour tous ceux qu'il avait connus en d'autres circonstances, expliquait soudain la grande influence qu'il avait exercée. Cet obséquieux courtisan n'était pas un lâche. Ce détestable ministre n'était pas un sot. Le prince Édouard donna son approbation à la sentence. Mais il réfléchissait et commençait à se former silencieusement une opinion sur le comportement des hommes promus aux hautes charges. Écouter avant de parler, s'informer avant de juger, comprendre avant de décider. Et garder toujours présent à l'esprit que dans chaque homme se trouvent ensemble les ressources des meilleures actions et des pires. Ce sont là, pour un souverain, les dispositions fondamentales de la sagesse. Il est rare qu'on ait, avant d'avoir 15 ans, à condamner à mort un de ses semblables. Édouard d'Aquitaine, pour son premier jour de pouvoir, recevait un bon entraînement. Le vieux Despenser fut lié par les pieds au harnais d'un cheval et traîné à travers les rues de Bristol. Puis, les tendons déchirés, les os fêlés, il fut amené sur la place du château et installé à genoux devant le billot. On lui rabattit ses cheveux blancs pour dégager la nuque. Un bourreau en cagoule rouge d'une large épée lui trancha la tête. Son corps, tout ruisselant du sang échappé aux grosses artères, fut accroché par les aisselles à un gibet. La tête ridée, maculée, fut plantée à côté sur une pique. Et tous ces chevaliers qui avaient juré par Monseigneur Saint-Georges de défendre dames, pucelles, opprimés et orphelins, se réjouirent avec force rire et joyeuses remarques du spectacle que leur offrait ce cadavre de vieillard en deux partagés.